sommes donc de retour à l'émission Au gré du temps, en compagnie de M. Charles Faribault, journaliste. M. Faribault, on parlait effectivement de la disparition possible d'une salle de nouvelles, de cet aspect aussi de la convergence qui existe depuis de nombreuses années. Quand vous exercez votre métier aujourd'hui et que vous comparez à ce que vous pouviez ou à ce que vous faisiez au niveau de l'approche journalistique autrefois, est-ce que cette convergence, cette concurrence qui fait en sorte que des fois l'information est peut-être une information plus axée vers, non pas le message, mais ceux qui la livrent, est-ce que ça rend l'exercice du métier, j'allais dire, frustrant?
Ce qui est très important, c'est de pas s'imaginer que, par exemple, les empires de presse, quels qu'ils soient, hein, que ce soit Jessica ou ceux de Thompson ou de Québécois, vont intervenir directement dans le travail des journalistes. C'est pas le cas. Moi, j'ai jamais eu d'appel ou de pression de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Il y a simplement des constatations qui font qu'on se rend compte que pour des raisons qui sont d'ordre, davantage peut-être de répondre à des attentes du public, on va davantage couvrir certains secteurs de l'actualité plus que d'autres. On parle plus beaucoup des affaires sociales dans les nouvelles. On parle plus beaucoup des affaires syndicales. Autrefois, moi, je me souviens très bien quand j'étais rentré à TVA, il y avait un chroniqueur syndical qui était attaché aux questions syndicales, qui couvrait la voix et la parole des syndicats. Ce n'est plus quelque chose qui
existe. Voilà où c'est dommageable, parce que les sans-voix n'ont plus vraiment de créneaux, de fenêtres de diffusion. En fait, quand on parle d'affaires qui sont moins sujets à polémique, vous parlez d'affaires syndicales ou d'affaires sociales, quand on parle d'un incendie ou d'un fait divers, ça ne nécessite pas de faire appel à la réflexion du citoyen.
Mais ce sont des faits. C'est la couverture d'un incendie. Je veux pas non plus dénigrer ça. C'est important parce qu'il y a des gens qui vivent un drame. C'est des gens qui après ça, encore récemment, j'en ai couvert un où le lendemain on s'est présenté sur les lieux pour voir comment les gens arrivaient à se débrouiller, à refaire leur vie, à récupérer le peu qu'ils pouvaient récupérer, à tenter de trouver une façon de c'est ça, de refaire leur vie carrément. Et ça moi, ça me paraissait...
Le
drame humain, mais aussi la force qui émerge de ces gens-là, qui peut peut-être parfois servir d'exemple aussi. C'est une évolution. Est-ce qu'on y retournera? Actuellement, on donne beaucoup d'importance à certains créneaux, à savoir, par exemple, la finance, le spectacle, le sport. Nous, chez nous, malheureusement, on n'a pas de personnes qui couvrent la couverture à l'Hôtel de Ville de Montréal. On va le faire de façon ponctuelle. Je sais qu'à Télévision 4 saisons, j'avais un collègue qui était en permanence à l'Hôtel de Ville. Lui, il va disparaître. Et donc, la couverture de l'Hôtel de Ville sur une base permanente disparaît.
Donc, l'information aux Montréalais est moins bien servie.
Elle est servie de façon plus pointue, c'est-à-dire qu'elle est servie sur des événements qui sont choisis, alors qu'autrefois on aurait pu avoir un rendez-vous avec le journaliste qui aurait été en poste à l'Hôtel de Ville, comme on en a avec des gens qui sont en poste dans les parlements ou collines parlementaires, où on leur demande qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en commission parlementaire, qu'est-ce qui s'est passé en chambre, est-ce que des choses qui on transpire et on parle de ce qui se passe.
Mais est-ce que l'information, par son essence même, ce n'est pas d'avoir cette approche pédagogique, c'est-à-dire de former un citoyen responsable en lui permettant de saisir l'environnement dans lequel il évolue? Si on le distrait par ce que vous mentionnez, le sport, le spectacle et tout le reste, il est difficile ensuite de porter un jugement réel sur l'activité sociale dans Donc, qui nous entoure.
Alors, peut-être que le citoyen est en train de faire un choix aussi, en allant sur Internet et en choisissant lui-même la nouvelle qui l'intéresse. Parce que ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a eu des baisses importantes des grands auditoires. Puis ça, je dirais pas universel, mais c'est du moins continental, parce qu'on le voit, les grands réseaux de télévision américains, les grands réseaux canadiens, québécois, il y a des baisses d'auditoires. Ils sont moins marqués du côté de TVA, parce que c'est une information qui est peut-être plus proche, justement, des besoins des Québécois. C'est un réseau qui est national, mais à l'intérieur même des frontières du Québec, et peut-être que les gens s'y reconnaissent davantage. Mais c'est quand même marqué, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui vont se rabattre vers Internet, où là, ils peuvent choisir l'information qui les intéresse en particulier.
Alors, M. Faribault, écoutons les petits oiseaux et rabattons-nous sur une époque qui était bien différente, qui était effervescente, vous l'avez mentionné, où la chanson aussi était très présente, les chansonniers émergeaient également. La chanson qui suit, on les entend, ces petits oiseaux, c'est le printemps. La maison près de la fontaine de Nino Ferrer, 1972, ça rappelle toute une époque, ça.
Oui.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les
Armand Dubois au micro, en présence de M. Charles Faribault, qui nous accompagne aujourd'hui, qui exerce le métier, dis-je bien, de journaliste depuis de nombreuses années. Alors, on faisait ce constat à l'effet que l'information est transformée, elle est changeante. Est-ce que vous êtes inquiet, par exemple, chez vous, à TVA, de ce qui risque d'advenir au réseau concurrent TQS?
Bien, on est inquiet pour le sort de nos collègues qu'on côtoie. Ce sont des concurrents, bien sûr, mais ce sont aussi des gens qu'on a appris à apprécier. Moi, je me fais toujours un devoir, dans la mesure du possible, de tenter de voir comment mes collègues de Radio-Canada et de TQS vont traiter l'information que moi, j'ai traitée. J'ose espérer que l'analyse que j'en fais, c'est de me dire, après avoir pu écouter les trois, que c'est mon reportage qui finalement est sorti peut-être comme étant le meilleur, qui expliquait le mieux la chose, mais c'est pas nécessairement toujours vrai. Il y a des gens très très compétents. Ça nous est triste. Je vous dirais que c'est qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là. Il y a très peu d'ouverture de marché actuellement. On le sait, les stations de télévision engagent plus tellement. C'est un peu la même chose, sinon quelques relèves du côté de la presse écrite, mais ouais, c'est pas du tout le même métier.
Sur une base plus large, quand on compare par exemple à ce qui existe en Europe, il y a beaucoup de journaux écrits, la télévision, évidemment la population est plus nombreuse, mais il me semble qu'il existe des journaux de contenu réflexion, si j'ose dire, beaucoup plus que ce que nous retrouvons ici en Amérique. Est-ce que vous disiez le citoyen aura à faire un choix? Est-ce que c'est vraiment le citoyen qui fait le choix ou est-ce qu'on lui offre peu?
Mais la culture en Europe n'est pas du tout la même qu'ici. Le fait est que quand vous parlez, vous faites référence, par exemple, à des journaux. À Paris,
le Monde,
par exemple,
le Monde diplomatique.
Le Figaro qui est plus à droite. Oui. L'Humanité qui est plus à gauche et le Canard enchaîné, que ça soit ce type de journalisme-là, il y a une culture qui existe en Europe qui n'existe pas ici. Ici, la plupart des gens, lorsqu'ils lisent un journal, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ne vont lire pour la plupart que les titres et le premier paragraphe, dans lequel on retrouve les fameux 5 W là, que les Américains nous ont appris à connaître, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, où ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, qui ça touche et pourquoi. Alors, on ne va pas au-delà de cet article-là. À peine 1% du lectorat d'un journal va lire les éditoriaux. Et déjà, c'est une minorité de gens qui lisent les journaux, parce que la très grande majorité des gens vont encore chercher leur information dans l'électronique, que ce soit à la radio et de moins en moins, et à la télévision, mais surtout et de plus en plus sur Internet. Donc, c'est une culture qui est différente, qui est difficile à comparer. On a à peine, pour une population de 8 millions d'habitants au Québec, qu'une quinzaine de quotidiens à travers toute la province. Et là, j'inclus les anglophones et les francophones. C'est pas beaucoup. Sur une échelle européenne, un pays semblable au nôtre, qui aurait une population à peu près identique, aurait probablement 2 à 3 fois ce nombre de quotidiens. Mais c'est aussi vrai en Amérique, aux États-Unis. Prenez une ville qui a la grosseur de Montréal, que ça soit par exemple, prenons Pittsburgh ou plus à l'ouest, oui. Une ville comme
Mais on se retrouve quand même en
Seattle,
Amérique.
C'est une... N'ont qu'un seul journal par ville.
Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessairement la norme à privilégier non plus.
Non, pas du tout, mais ce sont des faits. Oui. C'est lorsqu'on regarde les faits et la culture, c'est comme ça que ces sociétés-là sont construites.
Est-ce parce que nous vivons sous la dictature économique et la concurrence ne peut pas vraiment s'exercer parce que c'est trop difficile d'évoluer dans un milieu et dans un contexte économique semblable? Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe au Québec, plus de 90% de l'information qui circule dans deux grands groupes. C'est inquiétant.
C'est certain que les organes de presse qui sont totalement libres, qu'on pense au Devoir, par exemple, qui n'appartient à aucun grand groupe de presse, ne sont pas légion. Hein. Les deux empires dont vous parlez sont extrêmement forts, mais en même temps, ces empires-là ne sont pas nécessairement différents aussi.
Alors, il y aurait bien sûr à parler encore énormément de tout cela. Nous allons faire une pause musicale qui fait partie, bien sûr, de l'intégration de cette émission. Vous nous avez parlé de compositeurs russes tantôt. Voici une pièce qui n'est peut-être pas très connue, d'un compositeur qui ne l'est pas non plus. Il s'appelle John Harlan, mais la sonate, elle est très belle. C'est une sonate pour violoncelle et piano que nous vous offrons et que nous offrons aux auditeurs. Thank you. De retour avec M. Charles Faribault. Effectivement, John Ireland n'est pas russe, mais vous avez entendu, c'est vraiment très, très beau, cette sonate, n'est-ce pas?
Absolument.
M. Faribault, on pourrait évidemment, et on a probablement autant de visions d'information qu'il y a d'auditeurs qui nous écoutent, il en demeure pas moins qu'on oppose ici souvent information dite locale ou régionale versus information internationale. Souvent, à la télévision, l'international est laissé aux diffuseurs publics parce que ça coûte évidemment très cher. Est-ce que, au plan de l'information privée, parce que vous avez évolué, une grande portion de votre carrière a évolué dans le secteur privé, est-ce qu'il serait possible, à votre avis, d'investir davantage dans ce type d'information?
Ben nous, on a un correspondant à l'étranger. On a un correspondant à Washington. Et puis... on a des collaborateurs un peu partout. On a quelqu'un qui est très connu, qui est à Paris.
Claude Charron.
Claude Charron, qui est là comme collaborateur régulier. Donc, on voit que du côté de TVA, il y a un effort considérable. Ça coûte énormément d'argent de maintenir, par exemple, le bureau de Washington. Je sais que TVA a fait un effort considérable de ce côté-là et a décidé que le jeu en valait la chandelle. C'est aussi une période très importante. Il va peut-être y avoir un changement de régime de ce côté-là en novembre prochain, on verra bien. Mais c'est le cœur, ça demeure le cœur du monde pour l'instant. Washington est vraiment la capitale mondiale et c'est là que les choses se passent, qui nous concernent tous globalement. Là. Mais tout ça pour dire que est-ce qu'il y a de la place pour améliorer ça? Oui, parce que si vous regardez le nombre de correspondants québécois qui sont en poste à l'étranger, ça tient à peine sur les doigts des deux mains. Hein. Il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Et là, regardons les médias qui en ont. Il y a la presse canadienne, le journal La Presse, la Société Radio-Canada, TVA. À peu près. C'est à peu près tout. Il y a personne d'autre qui a les moyens de pouvoir dépêcher des gens...
Dans la presse anglophone?
Ah non, mais je parle des médias francophones.
Oui, bien sûr.
Je parle des médias francophones. Donc, pour encore une fois, pour une nation de 8 millions d'habitants qui vit au Québec, vous avez à peu près, peut-être, en poussant très, très fort, peut-être une douzaine de reportages.
En vous écoutant, on sent que vous avez quand même cette passion, après toutes ces années, cette passion, elle est toujours vivante, là, d'exercer un métier qui vous permet d'être un témoin privilégié de la vie qui bat autour de vous.
Mais c'est un métier qui est palpitant, qui est passionnant. On peut pas y échapper. On vieillit, c'est sûr. On a moins d'énergie pour le couvrir. C'est certain aussi que les entreprises sont davantage intéressées à faire plus de place aux plus jeunes. C'est dans la nature des choses. Nous, on a eu nos occasions, nos chances. Moi, j'ai voyagé à l'étranger.
Mais l'expérience, c'est important.
L'expérience, c'est important. Mais il faut permettre aussi aux autres d'en acquérir de l'expérience et pour qu'ils soient, eux aussi, en mode de réflexion plus tard.
Alors, est-ce que vous jouez ce rôle de mentor auprès des jeunes?
Ben, je n'ai pas cette prétention-là. Je ne suis pas sûr que, de toute façon, ils aimeraient recevoir le type de vision que j'ai. Vous savez, l'apparition d'Internet, ça a créé deux mondes. Hein. La cassure est beaucoup plus importante. Nous, on est des gens de la télévision. Moi, je suis né en 1953 avec la télévision. Je regarde juste mon fils qui est un enfant de d'internet de l'électronique et beaucoup plus à l'aise là-dedans que je ne le serai jamais.
Monsieur Faribault, nous allons vous offrir une belle pièce parce qu'on sent cette passion. Vous parlez d'internet, mais vous avez évolué dans un milieu, on dit la presse électronique. Vous êtes allé au bout de votre cœur dans le métier que vous exercez.
Ben, j'aimerais prétendre que il reste la place encore hein, pour faire un bout de chemin. Est-ce que ça sera avec la tête, le cœur? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que moi, j'ose espérer que j'aurai encore 10 années pour évoluer dans ce milieu-là, ce qui me fera quatre décennies, ce qui sera pas si mal.
Alors, au bout du cœur pour vous, par Gilles Vigneault.
ainsi que l'ont fait nos ancêtres, nos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur, on part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Ton cœur qui fait tourner la terre, qui bat pour rencontrer les siens, c'est le musicien solitaire le plus ancien. Il cherche encore la mélodie qui mettrait les cœurs en accord, et l'âme tout en harmonie avec le corps. Puis nous deviendrons des ancêtres, je vois déjà nos descendants savoir enfin naître et renaître aux mains du temps. Le chant est dans la poésie, ainsi que les fruits dans les fleurs, et les vendanges de la vie au bout du cœur. Ainsi que l'ont fait vos ancêtres, vos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur, on part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur, au bout du cœur.
Alors c'est presque la fin. Monsieur Faribault, le nom, le vocable Faribault est un vocable célèbre.
Pas célèbre. Il y a quelques personnes qui sont passées dans l'histoire quand on pense à Marcel Faribault.
Oui. Qui était Marcel Faribault pour ceux qui ne s'en souviennent pas?
Alors c'était quelqu'un de très connu dans le milieu des affaires, mais c'était surtout le lieutenant politique du chef conservateur dans les années 70, Monsieur Stanfield.
Oui.
Et donc il n'a jamais été élu malheureusement parce qu'il est toujours resté dans l'opposition.
Et c'était le cousin de votre père?
C'était le cousin de mon père. Et puis, nous, on est une famille qui est venue avec le gouverneur Duquesne. Donc, ça remonte à quelques...
Dixième génération
avec mes enfants, c'est ça. Et nous, on est vraiment bien implantés dans le cœur du Québec. Et puis, juste pour peut-être vous amuser, ouais. mais ça fait jamais plaisir à certains membres de la famille. Mais Faribault, c'est le fa serait le diminutif de pour la farine. Il a un ribot, c'est un voleur. Et un de nos ancêtres était le gardien du moulin, semble-t-il, à farine d'un roi. Nous, on vient de Montbiseau, qui est dans la région du Mans. Et peut-être un jour s'est-il fait prendre ce gardien de farine à voler. Alors, le nom est devenu Fa du diminutif farine et ribot, Faribault.
Alors, vous êtes devenu par le fait même maintenant le gardien de l'objectivité en exerçant le métier de journaliste.
Mais surtout d'avoir la capacité de pouvoir analyser l'origine de notre nom comme ça, de cette façon de cette façon-là, oui.
Écoutez, M. Faribault, si je vous demandais en terminant, pour vous, une information sensée en quelques mots, ce serait quoi?
C'est une information qui est exacte, précise, qui est transparente et avec laquelle on ne joue pas. Que celui qui... La renvoie au public ne fait que transmettre comme courroie de transmission l'information au public et ne devient pas lui-même la source de l'information.
Alors, on vous remercie d'une part d'être au service de la population par le métier que vous exercez, qui est vraiment fondamental. Dans toute démocratie, nous avons besoin d'être informés et c'est le rôle que vous remplissez. Puis on vous remercie, bien sûr, d'avoir été présent avec nous au nom de tous les auditeurs à l'écoute.
Bien, merci beaucoup.
C'était donc l'émission Au gré du temps. Avec nous aujourd'hui, Charles Faribault, journaliste au réseau TVA. Armand Dubois, l'antenne. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique d'Alain Primo. Au plaisir, passez une bonne semaine. Au revoir.